Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Le président turc met donc ses menaces à exécution. Depuis lundi dernier, une trentaine d'Occidentaux qui avaient rejoint les rangs de Daesh jusqu'à ce que les Kurdes de Syrie en viennent à bout, ces djihadistes donc ou leurs compagnes ont été expulsés et renvoyés dans leur pays d'origine, des Allemands surtout, mais aussi des Françaises et leurs enfants, dont le rapatriement serait en cours. Le processus ne fait que commencer. Furieux des protestations européennes à l'encontre de son offensive militaire au nord-est de la Syrie en octobre dernier, alors que Donald Trump laissait faire et abandonnait les Kurdes à leur sort, Tayyip Erdogan tient sa revanche aux Européens de s'occuper de leurs propres terroristes, leur dit-il en substance. Mais son opération a encore ajouté à la confusion et à l'extrême volatilité de la situation sur le terrain. Qui contrôle désormais les camps où les Kurdes de Syrie détenaient ou détiennent encore des centaines de djihadistes et leurs familles? Combien d'entre eux ont-ils réussi à s'enfuir quand on sait à quel point les frontières turques ont toujours été poreuses, permettant les allées et venues des combattants et des armes depuis des années? Depuis la mort d'El-Baghdadi et la nomination d'un nouveau chef, que sait-on de l'état des réseaux et des cellules dormantes de l'organisation terroriste la plus meurtrière de l'histoire? Combien de Français encore sur place? Et les enfants, quel est leur sort? Quant à ceux qui ont été rapatriés ou qui vont l'être, que deviennent-ils? Quelle est la solidité de l'arsenal sécuritaire et judiciaire mis en place pour répondre aux inquiétudes de nos opinions publiques? C'est ce que nous allons explorer ce matin, grâce à vous, Jean-Charles Brizard, merci d'être là. Vous Bonjour. Présidez le Centre d'analyse du terrorisme. Avec nous par téléphone de Berlin, Dorothée Schmidt, bonjour. Vous êtes responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Fabrice Ballanche, maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2, professeur associé au Washington Institute, et Camille Lucotte, avocate au barreau de Paris, avocate de Français détenus en Syrie. Jean-Charles Brizard, que sait-on très précisément de la situation au nord-est de la Syrie, quelques semaines après cette offensive militaire turque qui en fait donnait un grand coup de pied dans une situation qui était relativement figée grâce à la coopération militaire entre les Occidentaux et les Kurdes syriens?
Ben, règne dans cette partie de la Syrie encore aujourd'hui une grande confusion, vous le disiez à juste titre. Les Kurdes de Syrie détiennent en effet plusieurs milliers de djihadistes étrangers ainsi que des membres de leur famille. Pour les Français, on parle de 60 hommes, d'une centaine de femmes et d'à peu près 300 enfants, un peu moins, qui sont encore détenus ou retenus dans des camps. Parmi ces djihadistes, certains sont parvenus à fuir, hein, donc à s'évader soit des camps, c'était le cas de femmes, ils n'ont même pas eu besoin de s'évader d'ailleurs, puisque les camps ont été abandonnés par leurs geôliers, les Kurdes de Syrie, certains de ces camps, celui d'Ain Issa en particulier, où se sont échappés plusieurs centaines de femmes avec leurs enfants. Les États-Unis ont indiqué par la voie officielle que pour eux, plus d'une centaine de djihadistes hommes étaient parvenus à s'échapper de prison du Kurdistan syrien à la faveur de l'offensive turque sur cette partie de la Syrie. Il y a une grande confusion, il y a trois facteurs essentiellement qui aujourd'hui vont décider finalement du sort si ces djihadistes sont maintenus dans ces camps et dans ces prisons. Du sort de ces djihadistes, c'est d'abord bien sûr l'avancée de l'offensive turque. Quelle proportion va prendre cette offensive? Est-ce qu'ils vont aller plus loin dans la conquête territoriale?
Pour le moment, ils ne contrôlent qu'une trentaine de kilomètres.
Tout à fait, tout à fait. Leur intention, à plusieurs reprises, le président Erdogan a indiqué que leur souhait était d'aller plus loin. Alors, vont-ils mettre à exécution leur menace? On va le savoir très vite. Deuxième élément, c'est l'incapacité manifeste depuis maintenant de très nombreux mois des autorités kurdes de Syrie de garantir la détention de ces individus, de ces femmes et de ces hommes.
Bah, surtout depuis qu'on les laisse tomber. Je veux dire, on peut imaginer que...
Ça, c'est récent, mais je veux dire, déjà avant, on avait des soulèvements régulièrement, on avait des évasions également régulièrement de femmes ou d'hommes de prison. Et puis, troisième élément, c'est la poussée de l'État islamique. C'est depuis le mois de septembre, et un discours d'Abou Bakr al-Baghdadi avant qu'il ne disparaisse, qui incitait ses partisans à tout faire pour libérer les hommes et les femmes détenus dans les camps et les prisons du nord-est syrien, et qui a conduit un certain nombre d'offensives aussi de la part des soutiens de l'État islamique dans cette région, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Hein, quand on parle de résurgence de l'État islamique, je trouve que le mot n'est pas bien choisi. Pour avoir été sur place, il y a eu plus de 400 attentats revendiqués par l'État islamique dans le nord-est syrien depuis la chute de Baouz. Ce sont des réseaux qui ne sont pas des réseaux dormants, ce sont des réseaux actifs, même s'ils sont clandestins. Mais l'organisation aujourd'hui est en pleine recomposition. Elle recompose ses capacités opérationnelles sur le terrain en Syrie, en Irak. Et puis elle se déploie ailleurs aussi, on le sait, à travers ses filiales dans le monde. Mais pour ne parler que de la Syrie, effectivement, il y a encore une capacité de nuisance très forte de cette organisation.
Sait-on combien de Français sont encore sur place? Apparemment, la garde des Sceaux, Madame Belloubet, était sur une antenne hier matin. Et elle disait ne pas le savoir. C'est quand même bizarre.
Alors là, elle parlait, se référait, Madame Belloubet, je crois, à la situation de 11 Français et femmes françaises et leurs enfants qui vont être rapatriés prochainement en France dans le cadre du protocole Cazeneuve. Rapatriés.
Donc le protocole Cazeneuve, c'est donc l'accord signé dès 2014 avec le ministre de l'Intérieur de l'époque et les autorités turques.
Exactement, qui encadre la gestion, le transfert des djihadistes qui viendraient être capturés par la Turquie dans la zone frontalière de la frontière turco-syrienne. Ce qu'on sait, je l'ai rappelé, à peu près 450 Français, hommes, femmes, enfants, détenus dans des camps, dans des prisons, sous le contrôle des Kurdes syriens. À peu près 200 Français, dont on n'a pas de nouvelles, qui sont vraisemblablement en errance en Syrie. Beaucoup autour de et dans la région d'Idlib, bien sûr. Alors, la politique, effectivement, décidée par Erdogan, enfin, en tout cas, la mise à exécution de ce qu'il a dit depuis longtemps, donc c'est pas une surprise pour nous, bien sûr. Est-ce que ça va créer une sorte d'appel d'air qui va conduire un certain nombre de ces djihadistes qui sont aujourd'hui réfugiés dans la région d'Idlib à se rendre aux autorités turques, sachant que, in fine, elles seront bien sûr envoyées en France, on le verra. Mais donc voilà, c'est à peu près 450 détenus, 200 en errance. Et puis il y a le cas de ces Françaises et Français également, qui sont aujourd'hui capturés par la Turquie. C'est le cas de ces 11 membres de famille française, les 4 femmes ressortissantes françaises, et 7 enfants, qui sont, à ma connaissance, encore, en tout cas, elles l'étaient hier, en territoire syrien, parce qu'elles ont été capturées en Syrie, et c'est la raison pour laquelle ça rend les choses beaucoup plus compliquées, y compris pour la France, bien sûr, pour avoir des informations précises. Donc,
oui, parce qu'évidemment, on n'a aucune relation avec le régime de Damas.
Non, bien, elles sont sous le contrôle des Turcs, mais en Syrie. Oui. Voilà. D'accord. Et puis, par ailleurs, on a appris aussi que sur le millier de djihadistes capturés par la Turquie, lors de son offensive sur le nord-est syrien, il y avait 2 djihadistes français, qui seront eux aussi, à court moyen terme, rapatriés en France dans le cadre du protocole Cazeneuve.
Fabrice Ballanche, merci d'être avec nous par téléphone depuis Lyon. Vous étiez sur zone, comme on dit, en octobre dernier pour une ONG. Vous travaillez, je crois, sur les problèmes hydrauliques. Et vous étiez là au moment où l'offensive turque a été déclenchée. Vous avez vu comment les Kurdes syriens, évidemment, tout l'appareil qu'ils avaient mis en place après 3 ans de combat, où ils avaient vaincu Daesh, ben tout cet appareil s'est effondré en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Donc j'étais là-bas fin septembre et mi-octobre. Donc je suis tombé au milieu de l'offensive turque. J'ai croisé en revenant de Raqqa un jour les blindés américains qui quittaient la frontière turque. Et donc c'était le blanc-seing donné à Erdogan pour passer à l'offensive. Ce qu'il a fait dans les 48 heures, évitant ainsi que Trump change d'avis. Très rapidement, les défenses kurdes des forces démocratiques syriennes se sont effondrées. D'une part, parce que les Kurdes avaient joué le jeu de l'accord entre les Américains et les Turcs, c'est-à-dire qu'ils avaient retiré leurs armes lourdes de la frontière. Et ils avaient bouché des tunnels qu'ils avaient creusés, notamment à Tel Abyad et à la Salaïne. Les patrouilles américano-turques avaient bien vu qu'ils avaient joué le jeu, donc les Turcs ont profité de l'occasion pour attaquer, puisqu'il n'y avait plus de défense. Et vous imaginez bien que les Kurdes se sont sentis vraiment doublement trahis, parce que les Américains leur avaient assuré que s'ils respectaient les accords, ils seraient tranquilles. La Turquie ne taquerait pas. Et c'est le contraire qui s'est produit.
Ce qu'il faut aussi souligner, pardon, je vous interromps, c'est que autant la coopération militaire entre les Occidentaux et les Kurdes syriens a très bien fonctionné pendant 3 ans, autant on les a laissés seuls. Face à ce que Alan Cavall, dans un remarquable reportage publié par Le Monde au tout début du mois de novembre, appelle un archipel de prisons et de camps fermés, où sont détenus, où étaient détenus ceux des djihadistes qui étaient restés jusqu'au bout du califat.
Oui, tout à fait. Alors ces camps, il y en a 3, Ain Aïssa, au nord de Raqqa, Roj, près de la frontière irakienne, à côté de Malkiyé, et puis le camp le plus important, c'est El Hol, à la frontière avec l'Irak, à l'est de Hasakeh.
Et c'est là où il y a, je crois, 12 000 femmes, où il y avait 12 000 femmes et enfants. Hein. C'est le camp où on concentrait les familles.
Alors, 12 000 étrangers, c'est-à-dire que dans ce camp de El Hol, vous aviez presque 100 000 personnes, essentiellement des Syriens et des Irakiens, et puis vous aviez 12 000 femmes et enfants européens venus du Maghreb, d'Asie centrale, qui étaient dans un camp à part et qui était un camp dans des conditions de détention absolument abominables, un camp tenu par les radicaux, par les plus radicaux de Daesh, qui imposait justement aux femmes et aux enfants qui voulaient sortir de un peu de la doxa islamiste, en fait, qu'il leur imposait de rester dans la ligne, sans quoi vous retrouviez avec votre tente brûlée dans la nuit. Il y a même une femme début octobre, une indonésienne, qui a été étranglée par ses co-détenus parce qu'elle montrait des signes de déradicalisation. Donc c'était un camp assez abominable où les ONG n'avaient pas beaucoup d'accès, justement parce que les autorités kurdes qui est en charge du camp était pressé de voir les pays occidentaux rapatrier toutes ces personnes à charge et justement jouer un petit peu la politique du pire vis-à-vis de ce camp pour obliger les occidentaux à les rapatrier. Mais ça s'est pas produit puisque les occidentaux ont fait la politique de l'autruche jusque-là.
J'ai eu l'occasion mardi dernier au Forum de la paix qui était donc organisé à Paris d'interroger le président du comité international de la Croix-Rouge, c'est évidemment un Suisse, Peter Maurer, et je lui ai demandé quel est aujourd'hui le rôle de la Croix-Rouge internationale dans ces camps. Est-ce que c'est la Croix-Rouge qui supervise les transferts ou quel est exactement son rôle? Peter Maurer.
Notre rôle d'abord n'est pas tellement dans les transferts, mais surtout dans la protection des populations autour des théâtres de conflit. Et c'est dans cette perspective que le CICR a essayé d'avoir accès dans le nord-est la Syrie, d'avoir accès aux camps dans lesquels les familles de combattants ont été retenues ces derniers mois après les grandes batailles de Barghouz. Et puis d'avoir accès, bien sûr, comme le veut le mandat du CICR, aux détenus qui étaient tenus par les forces kurdes. Et comme vous le savez, le CICR a eu passablement de portes d'entrée et d'accès pendant les derniers mois. Donc on a visité des détenus, on a visité et déployé des activités d'assistance dans les camps. Et dans le contexte de notre mandat de protection, bien sûr, on a aussi enregistré et puis à fur et à mesure, si c'était le vœu, des détenus établis, des contacts. Mais le CICR n'est pas là pour se substituer à des services consulaires ou de protection dans les transferts, mais bien sûr plutôt pour protéger et assister les populations dans cette région.
Dans quelle mesure est-ce que les autorités turques agissent en concertation avec vous ?
Ils n'agissent pas en concertation avec nous. Le CICR a une délégation en Syrie. On agit en concertation avec le gouvernement syrien. Toute notre action en Syrie dépend aussi de notre consensus à déployer cette action avec le gouvernement syrien. C'est notre plus grande opération en Syrie. Cela dit, bien sûr, on essaye d'avoir les contacts aussi avec le gouvernement turc, mais par rapport au transfert de détenus, soit civils, soit détenus combattants, le CICR n'a pas un dialogue avec la Turquie.
Les camps dans lesquels les détenus djihadistes et ou leurs familles, femmes, enfants, ne sont pas tous sous le contrôle du gouvernement syrien. Donc, quels sont vos interlocuteurs s'agissant de camps qui ne sont pas tous non plus régis par le HCR?
Il est clair que si nous sommes présents dans le nord-est de la Syrie, nous sommes présents en toute transparence et savoir du gouvernement syrien. Cela dit, votre question porte sur le contrôle. Et le CICR a fait un effort délibéré d'avoir des relations et des accès avec tous ceux qui contrôlent des centres de détention, donc des forces kurdes, d'autres forces qui ont de l'influence sur ceux qui ont du contrôle. C'est notre devoir et c'est ce qu'on a essayé de faire ces derniers mois et ce qui nous a permis de visiter un certain nombre de détenus et aussi d'avoir accès surtout aux camps dans lesquels les enfants et les femmes et familles des combattants sont retenus.
Jean-Charles Brizard, donc on voit la doctrine de la Croix-Rouge qui parle avec le gouvernement syrien qui ne contrôlait pas cette partie de la Syrie, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à ce que les Turcs permettent finalement à l'armée de Bachar el-Assad de regagner du territoire, sauf je crois les zones pétrolières. Jusqu'à quel point, selon vous, finalement le président turc qui expulse donc un certain nombre d'Européens dit à nos gouvernements, bon ben finalement ce sont vos terroristes, à vous de vous en occuper, d'autres.
Oui, enfin, ce que dit le président Erdogan n'est rien d'autre que ce que disait déjà le président Trump. Et ça n'est rien d'autre que ce que un certain nombre de responsables politiques, des experts dont je suis, des praticiens, magistrats, instructeurs parisiens, notamment le juge Depas, coordinateur des juges antiterroristes, pôle antiterroriste TGI de Paris, et bien d'autres encore, disons, depuis maintenant des mois et des mois, à savoir... Nous avons des individus sur zone. Ces individus doivent être neutralisés judiciairement, par la voie judiciaire. Nous avons les moyens ici en France de le faire. Nous avons une pratique. Je regardais encore les statistiques ce matin. On a jugé plus de 400 personnes pour des faits de terrorisme depuis 2014. On a jugé plus de 220 revenants depuis 2014, donc des revenants du théâtre des opérations en Syrie et en Irak. Donc on a la capacité à toutes les étapes, c'est-à-dire que ce soit au niveau des renseignements, du renseignement, au niveau de la justice, au niveau carcéral aussi, d'accueillir et de surtout de prendre en charge ces individus et de les suivre éventuellement, le cas échéant, après qu'ils aient purgé leur peine. Les maintenir sur place, c'est prendre un risque maximum pour notre sécurité. Je l'ai dit, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui qui font que on craint évidemment qu'ils se dispersent ces individus, qu'ils puissent s'échapper, qu'ils puissent s'évader des lieux d'où ils sont détenus.
Il y avait, semble-t-il, un accord qui évidemment ne tient plus étant donné le chaos qui règne à nouveau en Irak, mais il y avait un accord avec les autorités irakiennes, moyennant finances d'ailleurs, pour que des Français soient sortis plus discrètement. Oui. Du territoire syrien pour être jugé, d'ailleurs de façon plus ou moins sommaire, Irak. Mais ça ne marche plus.
Cet accord a fonctionné pour 11 ressortissants et un résident français, donc 12 personnes qui ont été jugées et condamnées à mort début de l'année. Il ne fonctionne plus, il est bancal aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les Irakiens disent, à juste titre, d'abord, on n'a pas de compétences juridiques pour juger ces personnes. Il faut nécessairement que ces personnes aient commis des crimes sur le territoire irakien pour que la justice irakienne soit compétente, première chose. Et deuxièmement, il faudrait qu'il y ait un traitement différencié, parce que la France demande à ce que ces personnes ne soient pas condamnées à mort. Et donc, évidemment, c'est pas recevable du côté irakien, politiquement, c'est pas recevable, puisque ça veut dire qu'il y aurait deux poids, deux mesures, en quelque sorte, entre les djihadistes irakiens jugés condamnés à mort et les djihadistes étrangers.
Et puis, donc, il faut ajouter que la situation à Bagdad est chaotique.
Assez instable. Ouais. Aussi. Bon, mais en réalité, le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que la France a été attentiste dans ce dossier. Aujourd'hui, on essaye de se raccrocher aux branches, on essaye de trouver des solutions en envoyant nos. On dit on va les faire juger sur place. J'ai envie de dire, mais par qui ? Quelle autorité va les juger ? Les Kurdes en sont bien incapables, les Irakiens ne le souhaitent pas, on va les faire juger par les Syriens, c'est-à-dire que nos djihadistes vont devenir des moyens de pression pour ces États, pour ces groupes armés, pour obtenir quoi ? Des concessions diplomatiques, politiques, des contreparties financières ? Non, je crois que le plus sage, pour notre sécurité, encore une fois, c'est de faire en sorte que ces individus soient rapatriés dans notre pays et neutralisés, comme ils doivent l'être, par notre justice et notre système carcéral et pénitentiaire.
Dorothée Schmidt, je rappelle que vous êtes la responsable du programme Turquie Moyen-Orient à l'IFRI, vous êtes à Berlin pour un colloque, je crois. Quelle est la réaction à Berlin quand on sait que tout au long de la semaine, ce sont surtout des Allemands qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine par les autorités turques ?
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je suis effectivement dans un groupe de travail franco-allemand sur le Moyen-Orient, où on a parlé de l'OTAN, de l'initiative de la ministre de la Défense allemande d'une force internationale en Syrie. Et en fait, on n'a pas du tout parlé du sort des djihadistes rapatriés. Le sujet n'est jamais venu à aucun moment. Donc, ce n'est plus un sujet qui inquiète ou qui est discuté par les médias ou par l'opinion publique en Allemagne. Et de ce point de vue, ce découplage est quand même assez significatif de la sursensibilité, je dirais, des Français sur ce sujet, alors que finalement, ça concerne assez peu de monde et que, comme je comprends que ça a été dit, jusqu'à présent, on avait quand même des mécanismes de coopération avec les autorités turques qui fonctionnaient relativement bien pour rapatrier déjà un certain nombre de djihadistes et que finalement, en termes de nombre, on n'a pas tellement bougé.
Oui, enfin, on comprend aussi pourquoi en France, et surtout 4 ans après les attentats du Stade de France et du Bataclan, même s'il y a eu aussi des attentats en Allemagne, mais l'ampleur.
Il y a aussi eu des attentats en Allemagne, il y a une communauté musulmane qui est importante, il y a 4 millions de Turcs et de Kurdes. Donc on est quand même dans un pays où, et je vous rappelle qu'aux dernières élections, l'extrême droite a fait des scores de plus en plus impressionnants, donc on est quand même dans un pays où on a un sentiment d'insécurité politique sur ces sujets, mais jusqu'à présent, les politiques, je dirais, classiques ne s'emparent pas du sujet de manière à travailler, à chauffer leur électorat. Donc pour le moment, ce sujet n'est pas discuté. C'est aussi peut-être parce que les Allemands ont confiance en leurs institutions, au moins jusqu'à maintenant.
Le président Erdogan a été reçu en grande pompe à Washington mercredi dernier. Jusqu'à quel point vous interprétez la mise en œuvre de ces expulsions vers l'Europe comme une revanche, en quelque sorte, par rapport aux protestations européennes au moment où Washington, au contraire, laissait faire l'offensive militaire turque ?
Alors je pense que la revanche, elle est surtout rhétorique, puisque en réalité les mécanismes n'ont pas tellement bougé, la coopération policière, elle va continuer probablement de fonctionner à peu près de la même manière. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a eu des discussions très intéressantes avec nos interlocuteurs allemands de la défense qui nous disent l'OTAN continue de marcher malgré toutes les vagues en surface, n'enterrez pas l'OTAN, parce qu'en réalité tout fonctionne quand même encore très bien sur le moyen terme.
Ça, c'était évidemment en réaction aux propos d'Emmanuel Macron au magazine britannique The Economist, où il dit l'OTAN est en état de mort cérébrale.
De mort cérébrale. Oui. Oui, tout à fait. Alors sur Erdogan à Washington, il y a eu 3 réunions au même moment. Il y a eu donc Tayyip Erdogan reçu à Washington, ce qui était prévu de longue date, et on se demandait si cette visite allait être maintenu. Il y avait une réunion du Small Group sur la Syrie, qui est donc un groupe de contact qui comprend un certain nombre de pays arabes et de pays de la coalition. Et puis il y a eu une réunion de la coalition anti-Daesh. Donc en fait, on est en pleine diplomatie multilatérale, hein, même si on parle de la fin du multilatéralisme, on est en pleine tentative de résolution diplomatique des incompréhensions. Mais pour moi, ce qui reste toujours assez mystérieux, c'est de savoir finalement ce qu'il y a derrière ce deal entre les Américains et les Turcs sur le retrait, parce qu'effectivement, on sait que les Américains voulaient, enfin, en tout cas, Trump annonçait qu'il souhaitait se retirer depuis un certain nombre de mois, mais il a quand même pris la peine de s'affronter à non seulement toute son administration, mais aussi aux Républicains, y compris ses soutiens au sein de son propre parti.
Alors, qu'est-ce qu'on dit ?
C'est quand même quelque chose qui nous échappe.
Qu'est-ce qu'on dit à Berlin sur un possible troc ? On sait que le président Trump l'a fait avec son homologue ukrainien. Est-ce que oui ou non, quand on sait qu'El-Baghdadi, donc l'ancien chef de Daesh qui a été éliminé par les Américains, se cachait à 5 kilomètres de la frontière turque, est-ce qu'il y aurait eu un troc entre les Turcs pour offrir en quelque sorte El-Baghdadi à Donald Trump pour qu'il ait un triomphe à la mesure de celui d'Omaba contre Ben Laden il y a quelques années, contre l'abandon des Kurdes syriens ou c'est une espèce de théorie du complot sans intérêt?
Alors, pour mon niveau d'information, ce sont les Kurdes qui ont été opérationnels dans le renseignement et dans l'aide aux Américains pour livrer Baghdadi. Le groupe américain qui a opéré l'opération n'a pas décollé de Turquie, mais d'Irak. Au contraire, on a plus l'impression que les Turcs ont été marginalisés dans cette opération et qu'ils ont cherché, par exemple, à se rattraper par la suite en disant qu'ils avaient attrapé une femme de Baghdadi, quand on sait que Baghdadi lui-même s'est fait sauter à l'entrée de son tunnel avec deux de ses femmes. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est extrêmement significatif. Donc il y a plutôt une sorte de mise en scène rhétorique des Turcs d'un deal sécuritaire avec les Américains, mais je pense qu'il y a peut-être des choses un peu plus floues en coulisses. Il y a toutes sortes de théories du complot, hein, de toute façon, qui circulent en ce moment. Mais ce qui est important, c'est de voir que Erdogan a été reçu à Washington et que Trump l'a extrêmement bien reçu, a dit qu'il admirait le président turc et qu'il trouvait que tout ce qu'il faisait était formidable. Donc là, on est quand même dans une sorte de non-sens politique global très impressionnant.
Dorothée, merci de rester en ligne encore quelques minutes, si vous le pouvez. Camille Lucotte, bonjour, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris, vous défendez, je crois, l'une des femmes qui serait en cours de rapatriement, donc une femme compagne d'un djihadiste français, en l'occurrence.
Oui, c'est les informations qu'on a pour l'instant. Elle est arrêtée, elle est dans un centre de détention. Elle nous dit qu'elle est sur le sol turc, sous la garde évidemment de l'armée turque. Et elle devrait faire partie des 11 Français qui doivent être rapatriés à Paris. Mais tant qu'ils ne sont pas montés dans l'avion, il n'y a aucune certitude sur qui rentrera précisément, et en quel nombre et dans quelles conditions.
Qu'est-ce qui se passe une fois que ces femmes, en l'occurrence, avec des enfants et souvent des enfants en bas âge, plusieurs déjà, Jean-Charles Brizard nous le rappelait, sont rentrées. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la procédure judiciaire et policière ?
Je pense qu'il est important, c'est de rassurer les personnes qui peuvent nous écouter sur ce qui se passe lorsque ces personnes sont rapatriées. Elles sont à la descente de l'avion, immédiatement placées sous bonne escorte policière. En général, elles sont même dès le départ en Turquie encadrées par des policiers français dans le cadre du protocole Cazeneuve. Et dès leur descente de l'avion, soit il y a un mandat d'arrêt qui avait été émis par un juge d'instruction français à leur encontre, et dans ce cas, ces personnes sont immédiatement présentées au juge d'instruction, puis placées en détention provisoire. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y avait pas de mandat d'arrêt international, elles sont placées en garde à vue dans les locaux en général de la DGSI à Levallois-Perret pendant 2, 3, 4 jours, puis présentées à un juge qui les placera en détention provisoire. Il est important de comprendre que aucune de ces personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, ne se retrouvera en liberté ne serait-ce que 24 heures. Elles seront immédiatement judiciarisées et placées sous bonne escorte policière. S'agissant s'agissant des enfants, ils sont aussi pris en charge par un juge et par l'aide sociale à l'enfance. En fonction de leur âge, il y aura un encadrement qui est évidemment indispensable au regard des traumatismes que ces enfants auront vécu sur
On
place.
On sait que ce sont des enfants en bas âge qui ont été rapatriés, et parfois d'ailleurs avec l'assentiment de leur mère, restée en l'occurrence en Irak, si je me souviens d'un cas précis.
Oui, c'est assez différent. La situation en Irak et en Syrie, les deux situations sont très différentes. En Irak, il y a deux femmes qui sont détenues et qui sont dans un processus de jugement, qui ont déjà été jugées en première instance. D'ailleurs, l'une en appel, mais la procédure est un peu particulière en Irak. Et elles ont toutes les deux accepté que leurs enfants soient rapatriés en France, à part un très petit qui est resté avec sa maman pendant encore quelques mois. En Syrie, c'est très différent puisqu'il n'y a pas de processus judiciaire établi, de règles s'agissant de ce rapatriement. En Syrie, il y a des orphelins que la France est allée chercher dans les camps, dans des conditions assez terribles d'ailleurs. Mmh. Les militaires français sont arrivés dans les camps en pleine nuit, ont pris les enfants et sont repartis le lendemain matin. Mais ce sont des enfants, je crois la totalité sont des enfants orphelins, à part peut-être une petite fille, et qui sont évidemment, dès leur arrivée, confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Qu'est-ce que l'on sait en France des programmes de déradicalisation de ces hommes, et dans certains cas de ces femmes, qui sont donc rentrées et mises en détention, jugées ou en attente d'un procès. Qu'est-ce qu'on sait de ces programmes de déradicalisation en France ?
C'est évidemment un enjeu majeur. On a malgré tout pas beaucoup de recul, hein, parce qu'on parle de 5, 6, 7 ans. La France a certainement mis trop longtemps avant de se rendre compte de la gravité de la question, de ce qui pouvait se passer dans ces prisons. Il y a eu des tentatives qui ont été plutôt des échecs. Il y a aussi des belles réussites. Il y a des programmes. Il y a un programme qui s'appelait RIV, qui maintenant a changé de nom, mais peu importe, c'est toujours la même idée d'accompagnement, notamment des femmes, pour essayer de les ramener avec nous, hein, les ramener du côté des vivants. Et il y a des succès, et c'est pas moi, avocate, qui vous le dit, c'est des juges d'instruction, des juges des libertés et de la détention, qui décident de libérer ces femmes-là, et qui, après un an, deux ans, trois ans, montrent des signes de réintégration qui sont très encourageants. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura jamais de difficultés avec ces personnes-là à l'avenir, mais en tout cas, les personnels de justice font confiance à certaines femmes et hommes qui ont été pris en charge par ces programmes et qui fonctionnent plutôt bien.
Amdam Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International et vous êtes penchée sur les programmes qui existent ailleurs en Europe à travers les témoignages de la presse internationale.
Oui, il y a notamment un programme au Danemark qui était le programme un peu pionnier en la matière, puisque dès 2014, le Royaume intégré au programme Aarhus, qui, d'après le nom de la seconde plus grande ville du pays, ces jeunes djihadistes de retour de Syrie, afin, je cite le New York Times, de leur donner une seconde chance. Au Danemark, la déradicalisation, ça consiste en un accompagnement pour trouver un emploi, reprendre des études, se loger, recevoir un soutien psychologique ou une aide médicale. Tous les participants ont un mentor vers qui ils peuvent se tourner au quotidien pour des conseils et débattre des questions religieuses, par exemple. Grâce à cette initiative, la ville d'Aarhus affirme avoir réintégré dans la société 17 des 20 personnes qui sont revenues au Danemark entre 2013 et 2015, selon le journal danois Berlingske. Mais ces personnes n'avaient passé que peu de temps en Syrie ou en Irak, et il y a une différence importante, estime le journal, entre les djihadistes qui sont revenus rapidement et ceux qui ont passé plusieurs années sur place. Il faut savoir que plus de 150 Danois sont partis rejoindre les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie, et une cinquantaine seraient revenus.
Et il y a d'autres pays européens qui ont suivi cet exemple danois ?
Oui, c'est le cas par exemple de l'Allemagne, on en parlait un petit peu tout à l'heure. L'Allemagne a mis en place un suivi psychologique des revenants du djihad, dès 2014 aussi, en tablant sur la collaboration entre les services gouvernementaux et les associations. En Allemagne, la particularité, c'est que les djihadistes ne sont pas systématiquement incarcérés. Il faut détenir la preuve concrète de leur implication dans des combats, ce qui est difficile, notamment pour les épouses de djihadistes. Environ le tiers des 900 djihadistes allemands partis seraient rentrés, 80 sont en prison et environ 200 seraient avec leur famille, selon le site de la Deutsche Welle. Alors le programme de déradicalisation, dans ce cas-là, consiste plutôt en un coaching et un accompagnement de ces familles qui sont conseillées par des psychologues ou des travailleurs sociaux. Alors le Royaume-Uni, lui, adopte une approche plus systématique avec le programme désistement et désengagement, relate la BBC. Le but du gouvernement britannique, c'est aussi là d'aller aux racines de ce qui mène à la radicalisation, en s'attaquant à la fois à l'idéologie et à la psychologie des individus. Le programme consiste en des sessions hebdomadaires ou mensuelles avec des spécialistes, des travailleurs sociaux, des psychologues. Et là encore, il s'agit de déterminer pourquoi les personnes ont été attirées par l'extrémisme et en quelque sorte de les reprogrammer en leur donnant une autre lecture du monde. 116 personnes au Royaume-Uni en tout auraient bénéficié de ce programme entre octobre 2016 et septembre 2018, d'après les chiffres donnés par le Guardian. Le journal note que le ministère de l'Intérieur britannique ne donne pas beaucoup d'informations sur le succès de ce programme, mais continue en tout cas d'y ajouter des participants. Les adhérents potentiels ne manquent pas, note le journal The Times. Si on prend en considération le fait que plus de 400 personnes faisant peser une menace sur la sécurité nationale seraient rentrées de Syrie et d'Irak depuis 3 ans. Autre problème, souligne le quotidien britannique, il s'agit d'un programme obligatoire permettant soit de rentrer sur le territoire britannique, soit de sortir plus rapidement de prison. Il est donc difficile, je cite, de juger de la sincérité des participants. Il est probable qu'ils ne finissent que par dire ce que les autorités veulent entendre, estime le journal britannique.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine O'Krent.
Fabrice Ballanche, maître de conférence à Lyon, l'université Lumière. Jusqu'à quel point, selon vous, le régime syrien, qui donc, grâce aux Turcs, ce qui est paradoxal, a reconquis du territoire au nord-est du pays, jusqu'à quel point est-ce que le régime syrien essaie ou va essayer de prendre en charge ces prisonniers combattants, enfin ex-combattants de Daesh qui sont encore dans des prisons ou dans des camps qui étaient contrôlés par les Kurdes syriens?
Alors aujourd'hui, l'ensemble du nord-est syrien qui était sous administration kurde est en passe de revenir sous le contrôle de l'armée syrienne. L'armée syrienne contrôle aujourd'hui les frontières. Et puis petit à petit, elle va contrôler les villes, les grandes villes, les petites villes, et on va voir l'administration syrienne revenir dans cette région. Le rêve d'autonomie du Kurdistan aujourd'hui c'est terminé. Les États-Unis restent un peu de la résistance en occupant les puits de pétrole, mais ça va pas durer très très longtemps cette affaire. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les prisons des djihadistes, les camps où sont les djihadistes, vont se retrouver sous contrôle de l'armée syrienne, si ce n'est pas déjà fait. Le camp de Ain Aïssa, par exemple, aujourd'hui, il est sous contrôle de l'armée syrienne. Il y a des gardiens kurdes, peut-être, mais c'est sous supervision de l'armée syrienne. La prison de Kamishli, la prison de Hasakeh, elles sont sous contrôle de l'armée syrienne, déjà. Et je vois mal les Kurdes, que nous avons trahis, les confier aux Occidentaux pour qu'ils soient mis en lieu sûr. Nous avons trop attendu. Damas va, à mon avis, s'emparer de la plupart des djihadistes et des familles de djihadistes qui restent sous contrôle. Et puis, si tribunal international il y a, ben, il aura lieu à Damas, organisé par Vladimir Poutine et Bachar el-Assad.
Jusqu'à quel point est-ce que Erdogan va donc se retrouver pris aux pattes, si je peux me permettre cette expression trop familière, par le duo Poutine-Assad?
Bah, finalement, Erdogan fait partie du groupe d'Astana, Russie, Turquie, Iran, qui aujourd'hui ont toutes les clés en Syrie. Les Occidentaux, États-Unis, Europe, tout ça, nous sommes en dehors du jeu désormais. Même le processus de Genève aujourd'hui, il est contrôlé par le trio d'Astana. Donc Erdogan a plutôt intérêt à ce que ce tribunal d'ailleurs ait lieu à Damas, parce que il peut avoir ainsi des assurances de la Russie qui permettra de minimiser le rôle de la Turquie dans les allers-retours pour le djihad dans laquelle la Turquie a largement participé. Donc je pense que Erdogan a plutôt intérêt que ça ait lieu à Damas, ce tribunal justement.
Retournons à Berlin, vous rejoindre Dorothée Schmidt de l'IFRI. Donc, Erdogan joue ses cartes, il a les djihadistes. Il faut rappeler aussi qu'il y a des djihadistes dans les prisons turques et qu'il y a eu des attentats djihadistes en Turquie même.
Oui, il y a eu des nouvelles arrestations de gens présentés comme proches de la mouvance de Daesh ces dernières semaines en Turquie. Donc on sent très bien que les Turcs ont compris qu'ils avaient une grosse pression avec leur intervention en Syrie, où tout le monde a dit qu'ils allaient rendre complètement non opérationnel le mécanisme de contrôle de Daesh. Et ils sont aujourd'hui poussés à, au contraire, montrer qu'ils coopèrent de manière efficace avec les Occidentaux sur ce point, et aussi que eux-mêmes sont mis en danger par une éventuelle résurgence de Daesh. Alors, il y a un endroit où on est dans un flou artistique très problématique, c'est que, comme vous le savez, dans l'espèce de force que les Turcs ont mis en place pour intervenir dans le nord-est syrien, ils ont en réalité enrôlé à nouveau toutes sortes de groupes islamistes avec lesquels ils avaient travaillé dans le nord-ouest syrien. Ils ont en partie dégonflé, je dirais, la poche d'Idlib pour renvoyer des combattants à l'est. Et même si ces combattants ne sont pas des combattants de Daesh, il faudra d'une manière ou d'une autre les rémunérer à terme. Donc il est probable que les Turcs vont se retrouver avec un certain nombre de combattants qu'ils vont devoir accueillir sur le sol de la Turquie et dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont devenir et quelle forme de deal politique le gouvernement turc pourra mener avec eux.
Le président turc renvoie donc en Europe les djihadistes d'origine européenne. Il a évidemment un autre levier qui sont les réfugiés syriens. Il y en a, je crois, près de 4 millions en Turquie. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié, selon lui, cette opération militaire pour essayer d'en relocaliser un certain nombre en Syrie même. On a vu des réfugiés syriens traverser à nouveau la mer vers les îles ioniennes en septembre. Donc là aussi, Erdogan a un levier extrêmement puissant vis-à-vis des pays européens, au-delà de l'accord qui avait été conclu avec Madame Merkel en 2015 et des quelques 3 milliards d'euros payés par l'Union européenne.
Alors effectivement, c'est important de rappeler d'abord que les deux objectifs de l'opération turque en Syrie, c'était à la fois de repousser les Kurdes, mais aussi, au dire de l'administration turque, de réinstaller massivement les réfugiés syriens en Syrie, puisque les Turcs n'en veulent plus, à la fois parce qu'ils sont en crise économique, parce que Erdogan surjoue le nationalisme aujourd'hui anti-immigration, anti-réfugiés syriens. Donc finalement, il a réussi à monter son opinion publique contre les réfugiés syriens, alors que pendant très longtemps, c'était l'inverse. On était sur une idée d'accueil, de solidarité. Je pense qu'il y a assez peu de chances que les réfugiés syriens repartent massivement vers l'Europe, parce que pour la plupart, ils sont vraiment installés en Turquie où ils ont fait leur vie. Mais il faudra surveiller la façon dont l'État turc va gérer ses réfugiés. Et justement, ce qui est important, c'est qu'à Washington, les États-Unis et la Turquie ont signé un protocole d'accord précisant la façon dont les réfugiés seraient gérés, entre guillemets. C'est-à-dire que les Américains ont quand même imposé aux Turcs l'idée qu'il faudrait pas qu'il y ait de déplacement forcé, que les gens devraient revenir dans des zones dont ils sont issus, dont ils sont venus, et que surtout, les rapatriements se feraient sous la surveillance du HCR. Donc ça limite massivement la marge de manœuvre des Turcs. Le problème, c'est que ça se fait en bilatéral turco-américain. Donc on ne sait pas très bien ensuite quelle portée ça peut avoir à plus long terme. Mais en tout cas, ça veut dire que cette question, elle préoccupe tout le monde, parce que là, tout le monde craint des déplacements forcés de population, qui est ce que les Turcs ont l'air d'être en train de préparer.
Dorothée Schmidt, merci mille fois d'avoir été au téléphone avec nous depuis Berlin. Jean-Charles Brizard, ce que l'on craint évidemment, c'est que avec ces djihadistes qui se sont évadés au moment de l'offensive turque du mois d'octobre, qu'ils profitent en quelque sorte de courants migratoires qui peuvent reprendre de l'ampleur, encore une fois, si les autorités turques ouvrent davantage les vannes.
Oui, les deux principaux risques liés à ces individus spécifiquement, c'est quoi? C'est d'abord que certains d'entre eux, la majorité d'ailleurs, viendront renforcer les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak. Certains autres seront tentés de se relocaliser, d'aller rejoindre des filiales de cette organisation à l'étranger. Et on sait qu'à peu près une cinquantaine de Français, par exemple, y sont parvenus jusqu'à présent. On rejoint qui l'Afghanistan, qui la Libye ou le Sahel ces dernières années, ces derniers mois. Et puis le deuxième risque, effectivement, c'est qu'ils profitent du flux migratoire. Je veux dire à cet égard que c'est un risque réel. On a identifié un certain nombre d'individus qui se sont échappés de prisons tenues par les Kurdes de Syrie ces dernières semaines, qui sont parvenus à obtenir des faux papiers syriens et qui entendaient revenir sur le territoire européen pour frapper en Europe. Donc c'est une menace qui est réelle, qui est tangible et encore une fois qui est avérée à ce stade.
Et mais là, la coopération policière, y compris avec les autorités turques, mais surtout au niveau intra-européen, fonctionne. Je crois que vous avez réuni, il y a quelques jours, une conférence avec quasiment tous les responsables, aussi bien judiciaires, policiers,
renseignements. Beaucoup des responsables européens, effectivement, qui tous ont dit sur ce sujet précisément de la coopération européenne, qu'elle n'avait jamais aussi bien fonctionné, à la fois pour la coopération, ce qui ressort de la coopération policière avec Europol et ce qui ressort de la coopération judiciaire avec Eurojust et l'application notamment de mandats d'arrêt européens, les équipes communes d'enquête, etc. C'est effectivement l'enjeu, tout l'enjeu repose sur la coopération parce qu'il va falloir demain être en capacité de suivre les déplacements de ces individus, ce qui implique non seulement une coopération renforcée entre nous en Europe, au sein de l'espace Schengen, mais également à l'extérieur, avec des partenaires extérieurs, la Turquie, bien sûr, mais des pays du Maghreb aussi, qui peuvent être des pays soit de destination pour ces individus, soit des pays de transit.
Et des pays d'origine aussi,
je parlais surtout des djihadistes européens qui pourraient profiter d'autres voies pour rentrer en Europe ou pour établir des zones de terroristes dans le monde. Quoi, voilà.
Camille Lucotte, sur le plan judiciaire et sur le plan juridique, Hamdam nous rappelait tout à l'heure que le système allemand est très différent du nôtre. Une fois qu'il est établi que un ou une Française rentre de théâtre d'opérations terroristes, pour simplifier, automatiquement, vous nous l'expliquiez, il y a judiciarisation du processus. C'est pas le cas en Allemagne. Donc, comment faire en sorte que l'harmonisation soit plus efficace sur ce plan ?
Bah ça, effectivement, c'est une difficulté. Nos systèmes sont similaires dans le sens où, pour mettre en examen une personne, il faut qu'il y ait des indices qu'elle a commis une infraction. Là où il y a une vraie différence, c'est que notre code pénal prévoit une infraction qui s'appelle une association de malfaiteurs terroristes et qui est suffisamment large pour permettre de judiciariser, de mettre en examen et de juger à la fin du processus des personnes, quand bien même il n'y aurait aucun élément de preuve de violence, de participation à des combats ou
des
choses comme ça.
C'est et pour des ça preuves qui sont, dans certains cas, et surtout pour les femmes, très difficiles à rassembler, parce qu'évidemment, elles disent toutes qu'elles n'y sont pour rien
voilà,
et qu'elles
exactement.
Étaient là pour faire la cuisine.
Pour les femmes, le simple fait, pour les femmes, pour les hommes d'ailleurs, le simple fait de s'être rendu en Syrie et d'avoir cherché à rejoindre un groupe terroriste, parce que en Syrie, tous les groupes n'ont pas été qualifiés terroristes tout de suite, mais pour les services, c'est assez facile d'apporter la preuve que la personne est allée en Syrie et qu'elle a rejoint un groupe terroriste. Ce simple fait-là suffit à mettre en examen et, in fine, à condamner la personne pour association de malfaiteurs terroristes à une peine plus ou moins importante en fonction du degré de participation, du degré de responsabilité dans l'association, de la durée, du niveau de réinsertion, etc. Mais c'est une différence majeure avec l'Allemagne qui est, je crois, une bonne chose en France, notamment au vu du nombre de Français qui sont partis. Pendant les premières années, les premières années de retour de Syrie, les femmes n'étaient pas judiciarisées, elles n'étaient pas systématiquement mises en examen, il n'y avait que les plus radicalisées, les plus dangereuses qui l'étaient. Et ça, c'était certainement une erreur, parce qu'on a vu que les femmes sont tout à fait en mesure de mettre en œuvre des tentatives d'attentat en France. On l'a vu, l'attentat au bonbonne de gaz, où les jeunes femmes ont été jugées il n'y a pas longtemps. Donc ça a été une prise de conscience un peu en retard. Mais maintenant, hommes comme femmes, tout majeur qui rentre de Syrie, est mis en examen et à la fin il est jugé. Je ne connais pas de cas de personnes qui sont rentrées de Syrie qui n'ont pas été jugées à la fin.
Très important ce qui vient d'être dit. Hein.
Jean-Charles Brisard.
Très important ce qui vient d'être dit parce que ces jours-ci, on voit un débat sur effectivement, on va faire revenir des Français, mais on n'a pas de preuves contre eux, etc. C'est totalement faux. D'abord, la plupart de ceux qui, tous même, qui, ceux qui vont rentrer, qui sont en tout cas sur zone, la justice française les connaît d'ores et déjà. Mmh. Elle a déjà des éléments, la justice, ou les services de renseignement, bien sûr. Ils ont acquis des éléments de preuve à travers des témoignages, à travers des éléments matériels, hein, des preuves sur des téléphones, des vidéos, etc. Donc tous sont connus et sont d'ores et déjà judiciarisés. Mmh. C'est-à-dire que tous font l'objet d'un mandat de recherche, d'un mandat d'arrêt délivré par les autorités judiciaires. Et puis, effectivement, tous seront jugés. C'est très important. Il y a eu un biais de genre pendant longtemps, s'agissant des femmes, ça a été rappelé jusqu'en 2016. 2016, ça a été un tournant, puisqu'il y a eu l'affaire des bonbonnes de gaz, notamment, et puis d'autres attentats, projets d'attentats, pardon, qui impliquaient des femmes. Mais c'est très important de le dire. Et le droit français, comme ça a été rappelé aussi très justement, permet d'englober des situations extrêmement variées, à travers l'infraction, l'incrimination de l'association de malfaiteurs terroristes, dès lors que cette infraction est commise à l'étranger. C'est pour ça que tous ceux qui se sont rendus, effectivement, auprès d'une organisation terroriste, seront jugés et condamnés par les tribunaux français. C'est très important à rappeler.
Fabrice Ballange, quand vous étiez sur place, donc dans ce qu'on appelait encore le Rojava, et plus avant, dans le nord-est syrien, le Rojava, donc, qui était le territoire que les Kurdes syriens espéraient autonome, et ça, c'est, vous le disiez vous-même, évidemment, un espoir pour eux brisé. Jusqu'à quel point, dans ce reportage auquel je faisais allusion tout à l'heure, tant je l'ai trouvé remarquable, d'Alan Caval dans Le Monde début novembre, il s'intéressait en particulier aux prisonniers malades, avec une description véritablement dantesque des conditions dans lesquelles ces gens survivent. Selon vous, comment est-ce que toute cette ces gens en nombre considérable et certains à la fois épuisés, affamés et totalement bousillés par leur appartenance à cette utopie meurtrière de Daesh, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?
Les prisons dans lesquelles sont les djihadistes, c'est des conditions assez épouvantables. C'est le lot des prisons syriennes et irakiennes pour le commun des mortels. Hein. Ce n'est pas spécifique uniquement aux djihadistes. Donc, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ben, pour les Syriens, pour les Irakiens, ils vont rester sur place et puis être condamnés à mort, à prison à vie pour l'essentiel. Pour les Occidentaux, pour les étrangers, tout dépend de la réaction des différents pays, s'ils vont accepter de les rapatrier ou pas. Comme le disait M. Drivard, si on les laisse en Syrie, on prend un risque de voir ces djihadistes finir par se perdre dans la nature ou être instrumentalisés par les Syriens, les Iraniens qui contrôlent la région et qui peuvent s'en servir pour faire pression sur les Européens.
Jean-Charles Brizard, on arrive pratiquement à la fin de cette discussion. On sait évidemment à quel point nos opinions publiques partout en Europe, mais surtout en France, et Dorothée Schmidt le rappelait, en contraste, semble-t-il, avec ce qui se passe en Allemagne. Qu'est-ce que l'on sait du renforcement de l'appareil sécuritaire et des capacités de renseignement, notamment pour la menace dite endogène, c'est-à-dire on a vu, et on parlait de ces jeunes femmes qui ont été jugées récemment, qui n'avaient pas été ni en Syrie ni en Irak, toutes jeunes. Qu'est-ce que l'on sait sur la manière, en prison notamment, dont on peut avoir un suivi de la radicalisation qui, en France, en tout cas, ne semble pas avoir... les programmes de déradicalisation n'ont, semble-t-il,
oui,
pas été convaincants.
Ça me permet de revenir sur ce sujet, que la déradicalisation, pour moi, c'est de la poudre de perlimpinpin, selon Claire. Aujourd'hui, on ne parle même plus de déradicalisation, on parle de désengagement, en effet. Il y a des exemples concrets pour la déradicalisation. On n'a jamais eu suffisamment de recul qui nous permettent de déterminer avec certitude qu'un individu a renoncé à ses idées extrémistes, si vous voulez. Donc, c'est extrêmement dangereux de parler de ce concept qui n'a, pour moi, aucun sens.
Mais qui est à l'œuvre, encore une fois, dans les pays européens, comme le rappelait Adam.
Il y a certains programmes de désengagement qui ont eu des résultats très positifs, mais on ne connaît pas de succès dans le domaine de la déradicalisation, ce qu'on appelle la déradicalisation, en tout cas d'individus qui soient revenus du théâtre des opérations, parce que bon, évidemment, on a des individus radicalisés qui... Alors, pour revenir à votre question sur la menace endogène, la menace, effectivement, elle provient aujourd'hui de l'intérieur, essentiellement. Elle provient d'individus qui sont radicalisés, qui sont inspirés par l'idéologie, par la propagande de ces groupes djihadistes, hein, sur Internet en particulier. Elle provient d'individus qui sont des frustrés du djihad, c'est-à-dire des individus qui voulaient, qui étaient velléitaires pour le départ en Syrie, en Irak, et qui en ont été empêchés par les autorités. Et puis, elle vient aussi de ce dont vous avez parlé, à savoir un certain nombre d'individus qui sont aujourd'hui en prison et qui vont sortir. Les sortants, comme on dit, qui peuvent être initialement des gens qui reviennent du théâtre des opérations, qui peuvent être des velléitaires, qui peuvent être impliqués dans des projets d'attentats ou dans des filières, ou dans des réseaux de soutien logistique ou financier.
Et qui auront donc purgé leur peine.
D'ores et déjà, il y a des individus qui ont été libérés, hein, évidemment, parce qu'ils ont tout simplement purgé leur peine. Là, il y a un suivi qui a été mis en place, une cellule qui suit ces individus, et puis ensuite, il y a le renforcement du renseignement pénitentiaire, hein, qui permet de les suivre en prison, et à l'issue de leur période en prison, il y a une cellule, et c'est notamment les services de renseignement, bien sûr, qui suivent ces individus, les plus dangereux d'entre eux, après une évaluation qui est faite de leur dangerosité. Donc,
et il y a un nouveau service qui a été créé à cette fin.
Il y a un nouveau service qui a été créé au sein de un service de renseignement pénitentiaire qui a été créé. C'est ça. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, cette menace de sortant, elle est réelle, elle est tangible. Hein. Fin juillet, la France a déjoué, les services français ont déjoué un attentat qui impliquait pour la première fois un revenant de Syrie qui avait été condamné en France pour son séjour en Syrie et qui allait sortir quelques jours plus tard. C'est la première fois qu'on avait le cas typique, voilà, d'un sortant qui est impliqué dans un projet d'attentat. Donc, les capacités des services de renseignement ont été renforcées, capacités humaines, matérielles, elles le sont au quotidien, hein, par les pouvoirs publics, bien évidemment. Et puis, il y a cette attention qui est importante à l'égard des sortants, parce qu'ils constituent une population privilégiée pour effectivement ce type de projet terroriste, et d'autant que la prison reste encore, en grande partie en tout cas, un incubateur pour un certain nombre d'individus condamnés de droit commun qui se radicalisent.
Merci à tous d'avoir ainsi évoqué ce matin ces questions tellement lourdes, à la fois d'anxiété et d'importance pour nos démocraties. Je signale d'ailleurs la remarquable étude de la Fondation pour l'innovation politique de Dominique Régnier, la Fondapol, sur le phénomène du terrorisme islamiste dans le temps long, c'est-à-dire depuis la guerre d'Afghanistan, avec une insistance particulière sur la France qui a été particulièrement frappée. Donc merci à vous, Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme, Camille Lucotte, avocate au barreau de Paris. Dorothée Schmidt était avec nous par téléphone de Berlin. Elle est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si ça se dit, de La Turquie en 100 questions aux éditions Taillandier. Merci aussi à Fabrice Ballanche qui a publié en 2018 un ouvrage en anglais qui est disponible sur le site du Washington Institute. Et c'est aussi vous, Fabrice, qui avez signé les cartes absolument remarquables qui accompagnent l'ouvrage de Gilles Kepel, Sortir du chaos, qui a été publié chez Gallimard l'an dernier, ainsi que les cartes du djihadisme français d'Hugo Chéron, qui va sortir prochainement. Je remercie aussi, bien sûr, Peter Maurer, président du Comité international de la Croix-Rouge. Merci à Madame Mostafavi de Courrier International, à Luc-Jean Reynaud, qui était à la réalisation ce matin, Théo Gomard à la technique, Hugo Boursier, bien sûr, qui a préparé cette émission. Et comme chaque samedi, vous avez maintenant rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end sur France Culture.